Bienvenue sur l'émission Constellation, qui se propose d'explorer en votre compagnie les arcanes stellaires et diamantins où nous conduit la poésie de tout temps et de tout lieu. Bonjour, c'est aujourd'hui une seconde rencontre avec le poète Jules Supervielle. De secrètes correspondances, pour employer à dessein un terme baudelairien, se tissaient, au moins sur un point, entre Gérard de Nerval relu il y a peu, et lui. Nerval perdit sa mère alors qu'il n'était âgé que de 2 ans, et Supervielle perdit ses 2 parents quelques mois seulement après sa naissance à Montevideo en Uruguay. Ses parents moururent, comme on l'a dit, à Oloron-Sainte-Marie lors d'un voyage de retour en France. Montevideo, cette ville d'Amérique du Sud, ourdie d'étoiles singulières, d'étonnantes constellations, si l'on veut bien rappeler le titre de cette émission, ou d'extraordinaires gravitations, si l'on utilise le titre d'un des recueils poétiques de Supervielle. En effet, 2 autres poètes majeurs y verront le jour. Lautréamont, né en 1846, et Jules Laforgue, né en 1860. Sans qu'on puisse résister à l'attraction de leur œuvre, elle sera évoquée dans le cadre d'émissions futures. Pour ce qui est de Supervielle, ce lieu de naissance, Montevideo, et sa brutale condition d'orphelin orienteront sa création poétique à travers 2 pôles d'attraction, la haute mer et la pampa. 2 pôles qui orchestreront 2 courts romans poétiques, L'enfant de la haute mer et, précisément, le texte titré L'homme de la pampa. Ces 2 titres, Supervielle eut accepté qu'on les lui appliquât. Aussi est-ce l'omniprésence des paysages et de l'univers latino-américain que l'on perçoit dans 2 recueils poétiques des années 1920, avec l'ajout de poèmes et des éditions refondues jusqu'aux années 50, 2 recueils, le premier Débarcadère et le second Gravitation. Voici le poème qui ouvre le recueil Débarcadère. Comme un bœuf bavant au labour, le navire s'enfonce dans l'eau pénible, la vague palpe durement la proue de fer, éprouve sa force, s'accroche, puis déchirée s'écarte. À l'arrière, la blessure blanche et bruissante, déchiquetée par les hélices, s'étire multipliée et se referme au loin dans le désert houleux où l'horizon allonge ses fines lèvres de sphinx. Les 2 cheminées veillant dans un bavardage de fumée, le paquebot depuis 10 jours avance vers un horizon monocorde qui coïncide sans bavure avec les horizons précédents et vivre d'un son identique au choc de mon regard qui se sépare de moi comme un goéland du rivage. Ô mer qui ne puise en soi que ressemblance et qui pourtant de toutes parts s'essaie aux métamorphoses et, vaine, accablée par sa lourdeur, prolifère, se refoule de crête en crête jusqu'au couperet du ciel, mer renaissante et contradictoire, présence fixe où hier tomba un mousse, détaché d'un cordage comme par un coup de fusil, présence dure qui, la nuit, par-delà les lumières du bord et la musique cristalline et les sourires des femmes et tout le navire, rêves et bastingages, vous tire par les pieds à 6000 mètres de silence où l'eau rejoint une terre aveugle pour toujours dans un calme lisse et lacustre, sans murmure. Ô mer qui fait le tour du large, coureur infatigable, quelle nouvelle clame-t-elle dans l'atmosphère avide où ne pousse plus rien, pas une escale, pas un palmier, pas une voile, comme après une déracinante canonnade.
Thank you.
venez d'entendre une musique de l'Orénoque. L'Orénoque, le Rio Orinoco, est un fleuve qui s'étire entre le Venezuela et la Colombie. Musique interprétée au cuatro, qui est un instrument assez singulier, qu'on appelle aussi guitarrita, interprétée par Cheo Hurtado. On ajoutera que c'est l'omniprésence des paysages et de l'univers latino-américain que l'on perçoit dans les recueils Débarcadère et Gravitation. Un autre poème peindra avec force l'univers des colons. Rappelons en effet que de nombreux Béarnais émigreront vers l'Amérique latine et que Supervielle conservera des attaches et des liens familiaux très forts avec Oloron Sainte-Marie. Lisons le poème à présent intitulé « Équateur ». Sous la véranda de stuc rose, les colons, jambes croisées, vêtus de blanc et de soleil, dans la chaleur urgente, n'osent bouger de peur de se blesser aux raies qui coupent comme verre. Des femmes que resserre un air fauve et cupide voient se pétrifier leurs gestes commencés parmi l'ombre torride. De hauts cactus qui se contractent et sécrètent mille piquants tendent leurs lèvres à la gourde évasive de l'heure sourde. Enfin, le soleil bat pour la dernière fois, pèse sur les colonnes de la véranda qui s'éteignent une par une sous la gamme enflammée expirant à ses doigts. Et dans le ciel noir, tout de suite, approchant sa tête ennemie, la lune affreuse brûle au bout de quatre pics de bambou. S'impose aussi la lecture d'un long poème daté de janvier 1920 qui célèbre les retrouvailles du poète avec l'Uruguay après 7 ans d'éloignement forcé. Le poème s'intitule « Retour à l'Estancia ». Le petit trot des gauchos me façonne, les oreilles fixes de mon cheval m'aident à me situer. Je retrouve dans sa plénitude ce que je n'osais plus envisager, même par une petite lucarne, toute la pampa étendue à mes pieds comme il y a 7 ans. Ô mort, me voici revenu. J'avais pourtant compris que tu ne me laisserais pas revoir ces terres. Une voix me l'avait dit, qui ressemblait à la tienne, et tu ne ressembles qu'à toi-même. Et aujourd'hui, je suis comme ce hennissement qui ne sait pas que tu existes. Je trouve comique d'avoir tant douté de moi, et c'est de toi que je doute, ô surfaite, même quand mon cheval enjambe les os d'un bœuf proprement blanchi par les vautours et par les aigles, ou qu'une odeur de bête fraîchement écorchée me tord le nez quand je passe. Je fais corps avec la pampa qui ne connaît pas la mythologie, avec le désert orgueilleux d'être le désert depuis les temps les plus abstraits. Il ignore les dieux de l'Olympe qui rythment encore le vieux monde. Je m'enfonce dans la plaine qui n'a pas d'histoire, étend de tous côtés sa peau dure de vache qui a toujours couché dehors et n'a pour toute végétation que quelques thalas, seibos, pitas, qui ne connaissent le grec ni le latin, mais savent résister au vent affamé du pôle de toutes leurs ruses barbares en lui opposant la croupe concentrée de leurs branchages, grouillant d'épines et leurs feuilles en coups de hache. Je me mêle à une terre qui ne rend de compte à personne et se défend de ressembler à ces paysages manufacturés d'Europe saignés par les souvenirs, à cette nature exténuée, poussive, qui n'a plus que des quintes de lumière et, repentante, efface l'hiver ce qu'elle fit pendant l'été. J'avance sous un soleil qui ne craint pas les intempéries et se sert sans lésiner de ses peaux de couleur locale toutes fraîches pour des ciels de plein vent qui vont d'une fusée jusqu'au zénith et y saisit dans ses rayons, comme au lasso, un gaucho monté, tout vif. Les nuages ne sont pas pour lui des prétextes à une mélancolie distinguée, mais de rudes amis d'une autre race ayant d'autres habitudes avec lesquelles on peut causer. Et les orages courts sont de brusques fêtes communes, où ciel, soleil et nuages y vont de bon cœur et tirent jouissance de leur propre plaisir et de celui des autres, où la pampa roule, ivre morte dans la boue polluante, où chavirent les lointains, jusqu'à l'heure des hirondelles et des derniers nuages, le dos rond dans le vent du sud, quand la terre, surtout le pourtour de l'horizon bien accroché, sèche ses flaques, son bétail et ses oiseaux, au ciel retentissant des jurons du soleil qui cherche à rassembler ses rayons dispersés. On le voit, la forme ample du verset emprunté à Claudel offre désormais au poète un champ de libre expression. On voit aussi qu'il assimile le campo uruguayen à la pampa argentine beaucoup plus plate et désertique. Dans Débarcadère, une série de poèmes datés du printemps 1920 décrivent assez précisément les étapes du voyage qui a conduit Supervielle à travers l'Argentine et le Paraguay le long du fleuve Paraná. Le poète affirmera « Chaque jour pousse son ciel et me dicte ses préférences. Certains sujets me paraissent requérir l'alexandrin, d'autres le verset ou le vers blanc. » Cette libération poétique marque l'abandon définitif du modèle parnassien qui avait dominé les œuvres de jeunesse. Par ailleurs, le continent latino-américain n'est pas seulement un réservoir de thèmes spécifiques et exotiques, il est aussi constitutif de la recherche de l'identité du poète, contradictoirement tantôt apaisé par ce qu'il évoque, tantôt déchiré entre l'Uruguay et la France. Lui qui aura tant fait de voyages en haute mer, en empruntant les mythiques transatlantiques, en viendra à déclarer. André Gide a dit que les extrêmes le touchaient. Moi qui ne suis qu'un simple voyageur, j'ai tout au plus le droit de dire que les antipodes me touchent, qui sont des extrêmes dont l'importance, hélas, diminue de jour en jour. » Ils me touchent à un tel point que si je suis sûr de n'avoir qu'une patrie, et vous savez que c'est la France, j'ignore où se trouve mon domicile et si c'est à Paris ou en Uruguay. Mais le poète n'est pas si désorienté qu'il le paraît. En effet, les poèmes qui décrivaient la Pampa étaient imprégnés d'une profonde mélancolie. Dans Débarcadère, au contraire, à l'exception peut-être d'un poème comme La Piste, la nature sud-américaine devient le lieu quasi initiatique d'une renaissance qui délivre le poète de son obsession de la mort et d'une culture exténuée. Supervielle dira « Je fais corps avec la Pampa qui ne connaît pas la mythologie, je m'enfonce dans la plaine qui n'a pas d'histoire, je me mêle à une terre qui ne rend de compte à personne et se défend de ressembler à ces paysages manufacturés d'Europe, saignés par les souvenirs. » Ce sont des extraits du poème qu'on a lu tout à l'heure, « Retour à l'Estancia ». On peut constater aussi qu'à l'introspection douloureuse, qui n'aboutissait dans le recueil de jeunesse simplement intitulé « Poème », qu'à aggraver les doutes du poète sur lui-même, succède ici un mouvement d'extraversion, une fusion tout à la fois physique et psychique avec l'univers. Cette union extatique avec la Pampa, qui, je le cite, « roule ivre morte dans la boue polluante où chavirent les lointains », s'accompagne à la fois d'une sensation panique de vertige, ce vertige horizontal qu'évoquera Drieux-La Rochelle à propos de l'Argentine, et d'une sorte d'ivresse dionysiaque. On voit, si on évoque à présent le recueil de Gravitation, qui date des années 1920 également, on voit l'intérêt naissant de Supervielle pour une autre thématique, cette fois, une thématique astrale, puisqu'il lit alors des livres d'astronomie, notamment un ouvrage de vulgarisation scientifique intitulé « Le ciel », où il découvre de bouleversantes images. Il conçoit un ciel plus mythique qu'astronomique, et après avoir parcouru la planète dans Débarcadère, Supervielle explore les espaces interplanétaires. Il dira « L'inspiration se manifeste en général chez moi par le sentiment que je suis partout à la fois ». Le poète, dans ce nouveau recueil, « Gravitation », passe constamment de la terre au ciel, des profondeurs souterraines aux abîmes sous-marins, du végétal à l'animal et de l'animal à l'humain, du présent au passé ou au futur le plus lointain. Il commentera ainsi son recueil. On s'est étonné que j'ai mis le mot « gravitation » au pluriel comme titre de mon volume de 1925, « La gravitation universelle » étant peut-être la seule chose qui soit unique au monde. Je pensais à la fois à la gravitation intérieure et à celle du dehors qui la prolonge. Les gravitations s'organisent en fonction d'un foyer qui n'est autre que la subjectivité créatrice du poète, son cœur astrologue, comme il le dira. L'espace intersidéral se confond avec un au-delà hanté de fantômes et de souvenirs. La poésie se fait miroir des morts, tente de rétablir la communication entre terre et ciel, entre vivants et disparus. L'expression « miroir des morts » est empruntée à une des sections du recueil « Gravitation » qui en comporte plusieurs, « Les colonnes étonnées », »,« Matin du monde », »,« Le cœur astrologue », »,« Suffit d'une bougie », »,« Le miroir des morts », »,« Le large », »,« Géologie », »,« Équateur » et enfin « Poème de Guanamiru ». Pour terminer cette évocation, lisons plusieurs des poèmes extraits précisément de la section qui porte le titre « Le miroir des morts ». Un premier poème s'intitule « Les yeux de la morte ». Les yeux de la morte, cette morte que je sais et qui s'est tant méconnue, garde encore au fond du ciel un regard qui l'exténue, une rose de drap, sourde sur une tige de fer, et des perles dont toujours une regagne les mers. » De l'autre côté d'Altaïr, elle lisse ses cheveux et ne sait pas si ses yeux vont se fermer ou s'ouvrir. Lisons aussi un autre poème tiré de cette même section, un poème intitulé « La belle morte ». Ton rire entourait le col des collines, on le cherchait dans la vallée. Maintenant, quand je dis « donne-moi la main », je sais que je me trompe et que tu n'es plus rien. Avec ce souffle de douceur que je garde encore de la morte, puis-je refaire les cheveux, le front, que ma mémoire emporte ? Avec mes jours et mes années, ce cœur vivant qui fut le sien, avec le toucher de mes mains, circonvenir la destinée ? Comment t'aider, morte évasive, dans une tâche sans espoir, t'offrir à ton ancien regard et reconstruire ton sourire et rapprocher un peu de toi cette houle sur les platanes que ton beau néant me réclame du fond de sa plainte sans voix. Tes cheveux et tes lèvres et ta carnation sont devenus de l'air qui cherche une saison. Et moi qui vise encore, seul, autour de mes os, je cherche un point sonore dans ton silence clos pour m'approcher de toi que je veux situer sans savoir où tu es, ni si tu m'aperçois. Vous venez d'entendre une composition de l'immense compositeur argentin Astor Piazzolla, et auparavant le morceau chanté qui s'intitulait La Llorona, ce qui veut dire celle qui pleure ou la pleureuse, interprété par l'immense chanteuse aussi Chavela Vargas, que Pedro Almodovar admirait tant. Terminons cette émission sur Supervielle par deux extraits. D'abord, un extrait du texte qu'il a dédié à Lautréamont et qui s'intitule « À Lautréamont » dans le même recueil des Gravitations. Il écrit « Sur un paquebot où flottait une odeur de femme et de cuisine, la musique montait au mât furieux d'être mêlé aux attouchements du tango. J'avais honte de mon cœur où coulait le sang des vivants. Alors que tu es mort depuis 1870 et privé du liquide séminal, tu prends la forme d'une vague pour faire croire que ça t'est égal. Le jour même de ma mort, je te vois venir à moi avec ton visage d'homme. Tu déambules favorablement les pieds nus dans de hautes mottes de ciel, mais à peine arrivé à une distance convenable, tu m'en lances une au visage, Lautréamont. » Et enfin, ce dernier poème, intitulé « Pointe de flamme », toujours extrait de la section « Le miroir des morts » dans « Débarcadère ». Tout le long de sa vie, il avait aimé à lire avec une bougie, et souvent il passait la main dessus la flamme pour se persuader qu'il vivait, qu'il vivait. Depuis le jour de sa mort, il tient à côté de lui une bougie allumée, mais garde les mains cachées. Cette émission hebdomadaire est diffusée en direct les mardis de 10h à 10h30 et rediffusée les vendredis de 13h30 à 14h. Vous pouvez aussi l'écouter, la réécouter en podcast, comme toutes les autres émissions des RLP.